FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec.
Quel gros week-end dans le monde du sport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Mais la vedette au sortir du week-end, c'est cette jeune fille de 18 ans de Mississauga en Ontario. On la connaissait pas il y a 6 mois. Maintenant, elle est 24e au monde. Et elle a gagné hier le tournoi de la Californie avec un chèque d'1,3 million.
Nos gars, ils sont donnés corps et âme pour nos partisans. Ils ont essayé de donner le meilleur spectacle. Mais c'est un calendrier de marre.
On n'est pas fini ici. Là. On a perdu un match que je pense qu'on aurait quand même dû gagner là, samedi. Un gardien de l'autre côté était incroyable, mais ça reste quand même qu'on va se battre jusqu'à la toute fin pour tout donner pour faire partie des séries. Ça change pas.
It's a fourth championship point. Astounding Andreescu. One of the most astonishing performances at a tournament from an 18-year-old.
Vous écoutez l'avant-match au FM 93 avec Dan Pooh.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2062. Will vous a fait un bon résumé au niveau sonore de ce qu'on a vécu dans la fin de semaine au niveau sportif. Et vous l'avez entendu dans l'extrait, le descripteur dire quatrième balle de championnat pour Andreescu. Les trois premières fois, elle avait manqué son coup. Et à chaque fois qu'une jeune fille de 18 ans manque son coup contre une ancienne numéro 1 mondiale qui a 31 ans, on se dit « Ah non, elle a manqué sa chance. Pour moi, elle ne réussira pas à gagner. » Ben non, finalement, elle est revenue et elle a gagné. Elle souffrait, elle a reçu un temps d'arrêt médical de 3 minutes pendant la finale. C'est un super accomplissement. Voilà, la foule est en délire, vous venez de l'entendre. C'est un superbe accomplissement que ce qu'a réussi Bianca Andreescu au cours de la semaine. Et à chaque fois qu'on pensait qu'elle allait perdre et on allait se dire, hey, sérieusement, elle est rendue en quart de finale, mais si elle perd, ça va être vraiment un beau cheminement pour elle, ben elle gagnait. Puis là, elle arrivait en demi-finale, on se disait, bon, c'est pas grave, ça perd en demi, sérieux. Elle a 18 ans, elle est jeune, puis ben elle gagnait. Puis quand elle est arrivée en finale, on s'est dit, oh, elle n'a pas une Kerber. Kerber était numéro un mondial l'année dernière. Elle n'était pas numéro un mondial en 1943, là. Elle était numéro un mondial dans la dernière année. Elle l'a battue. Je vous ferai un parallèle avec le Canadien, si vous me permettez. Même si c'est un sport individuel, le tennis, versus le sport d'équipe. Si on s'attendait à ce que Andreescu s'incline, puis on se disait, c'est pas grave, elle est jeune, ça me rappelle une phrase que j'ai entendue tout l'hiver à Montréal. Ah, nous, on fera pas de grandes transactions parce que notre plan, c'est d'être bon dans 3-4 ans. Andreescu aussi est supposé d'être bonne juste dans 3-4 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à Indian Wells? Elle a gagné le tournoi. Bravo. C'est exactement pour ça que j'aime autant le sport. C'est parce que les événements, on les présente puis on sait pas qui va gagner. Et c'est on va parler avec Louis-Jean dans une minute ou deux. C'est sincèrement décevant ce qui arrive avec le Canadien. Pas parce qu'on s'attendait à ce qu'ils remportent le titre de leur division. Parce qu'ils ont assez bien joué pour faire les séries. Puis là, ils s'enlignent pour les manquer. Il reste 10 matchs aux Canadiens. Dommage parce que ils ont créé des attentes aux partisans. Puis les partisans vont être déçus de ne pas voir le Canadien en série. À moins que ça change. Le Canadien amorce demain à Philadelphie une semaine de 4 matchs. S'ils en gagnent 3, ils vont revenir dans la course aux séries. Et vous avez entendu aussi Patrick Roy. Patrick Roy, avec son calendrier de marde, fait jaser en fin de semaine. Sincèrement, Patrick a détourné de l'attention, comme lui seul peut le faire, en prétextant que le fait d'aller jouer à Bécomo, quasiment à la même distance, Gatineau et Bécomo de Québec, ben, ils sont allés jouer à Bécomo un mercredi soir, puis sont venus contre Drummond, puis les gars étaient fatigués.
C'est un calendrier de marde.
Patrick, je pense, le dit 6 fois en 31 secondes.
C'est un calendrier de marde.
Mais ça, c'est du grand Patrick. C'est pour détourner de l'attention, là. Le lendemain soir, le lendemain après-midi, c'est-à-dire son équipe a perdu contre Chicoutimi. Pourtant, il avait couché à la maison ici à Québec, là.
Et c'est un calendrier de marde.
Les séries vont débuter vendredi pour les remparts à Halifax.
C'est un calendrier de marde.
Pour les séries aussi ou non, juste pour la saison. Pour les séries, c'est un 2-3-2. Les remparts vont aller en avion à Halifax. Ça débute vendredi, les deux premiers matchs. Il y en aura trois à Québec si on se rend au match 5. Et on retournerait pour les matchs 6 et 7 à Halifax pour compléter la série.
C'est un calendrier de marde.
Voilà, je vous avais dit. Je vous avais dit qu'il l'avait dit 6 fois. C'est réglé. Pour les Moussets, ben, c'est l'équipe qui a terminé au premier rang de la conférence des remparts. Et c'est eux qui vont recevoir le tournoi à la ronde de la Coupe Memorial en mai prochain. Juste avant de parler à Louis-Jean, on écoute un montage qui résume le match de samedi soir contre les Hawks de Chicago.
Les Blackhawks sont en ville. Thierry-Rivière, arrête pas pour 2 points. Quel arrêt il a fait! Attaque au cercle droit. Passe devant, déviation. Bel arrêt de Crawford. Vient de voler un but à Thompson. Voilà maintenant Tatar à la ligne. Encore pour Weber. Passe au cercle gauche. Parity. Arrêt, retour devant. Quel arrêt de Crawford. Il vient littéralement de voler. Kéki au cercle droit. Le tir est court. Et c'est 2 à 0 les Hawks. Dans l'enclave. Tir appuyé. Quel arrêt! Crawford encore vient de voler Armia. Et le Canadien subit la défaite.
L'avant-match.
Dans l'avant-match.
Voici
Louis-Jean.
Salut Louis, comment vas-tu?
Je vais exceptionnellement bien. Il fait beau ici, beau soleil. Le printemps est à nos portes. Bring it on.
Mais malheureusement, le golf risque d'arriver un peu trop vite pour le Canadien.
Seigneur. Écoute, c'est pas fini, là?
Non.
Mais mettons qu'il y a un clou de plus dans ton... Là. Malheureusement, c'est un match. Écoute, les derniers matchs, tu ne pouvais pas les perdre. Le match de samedi, c'est pas comme si le Canadien joue mal. C'est pas comme si le Canadien n'a pas essayé. Quand tu génères 48 lancers, c'est parce que clairement, t'as eu beaucoup de chance. Tu contrôlais la rondelle. Tu étais en possession de la rondelle. Tu étais en mode attaque. Mais t'avais un Corey Crawford qui, lui, à chaque fois qu'il s'amène à Montréal, c'est un mur, c'est un mur de briques, il n'y a rien qui rentre. C'était très clairement le cas samedi. Et là, c'est sûr que ça vient de faire énormément mal. Et ce qui fait encore plus mal, si c'était pas assez, hier, j'étais en train de regarder les différents matchs de hockey. Je me prépare à me coucher, c'est 1-0 les Pingouins. Je me dis, bon, parfait. Les Flyers, c'est réglé.
Au moins
et
ça.
Et là, je dis, je vais vérifier les pointages juste après ma douche. Je vais aller vérifier les petits pointages pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest. C'est 2-1 victoire. Je me dis, pardon, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais.
J'ai parlé avec Jacques Martin aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, écoutez, il disait, pourtant, on a dominé en deuxième, mais c'est ça le hockey. Et c'est ça qui fait que la course aux séries est si extraordinaire présentement.
Puis, en même temps, évidemment, les Pingouins étaient privés de Malkin et de Letang pour le match d'hier. Mais, puis les Flyers ont marqué dans les dernières secondes de la troisième et dans les dernières secondes de la prolongation. Mais peut-être que les Flyers ont réussi hier où le Canadien a échoué depuis une semaine ou 10 jours, c'est-à-dire gagner le match qui fait en sorte que si tu le perds, tu vas manquer série.
Oui, exactement. Et c'est probablement ça demain. Demain, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est Canadiens Flyers à Philadelphie, au Wells Fargo Center.
Ouais.
C'est un match. Les Flyers perdent, c'est terminé selon moi. Le Canadien perd, c'est probablement la même chose.
Ouais.
C'est peut-être déjà trop tard pour Philadelphie de toute façon. Pour le Canadien de Montréal, ben là, il y a vraiment, vraiment, vraiment plus de marge de manœuvre. Mais c'est vrai, t'as raison. Je veux dire, c'était... Et ça démontrait à quel point cette équipe-là, et comme je viens de le mentionner, j'ai parlé avec Jacques Martin aujourd'hui, on s'est parlé rapidement, puis il me disait, c'est dommage un peu ce qui s'est passé cette année avec Ron Extall, parce qu'il dit, il a fait beaucoup de bonnes choses là-bas. Il dit, on peut voir que cette équipe-là, c'est une très, très bonne équipe. Ils ont des bons jeunes joueurs, ils ont vraiment un avenir extrêmement, extrêmement prometteur. Et puis quand on regarde un peu le match du Canadien, j'étais avec mes collègues Michel Bergeron et puis Dave Morissette pendant l'avant-match.
Samedi,
et puis il y avait une entrevue, Renaud Lavoie réalisait une entrevue avec Duncan Keith. Et puis je me suis retourné pendant qu'on écoutait l'entrevue, puis je disais, ce gars-là, y a-tu là un gars qui est prêt pour jouer un match des séries? C'était un peu ça. Les Blackhawks de Chicago ont un noyau de jeunes joueurs vraiment impressionnants, mais il y a encore des kingpins, il y a encore des vétérans qui font la différence. Et quand tu joues un match comme samedi, tu te dis, si on l'échappe, c'est peut-être terminé.
C'est ça.
Ils devaient absolument gagner. C'était les Jonathan Taves, c'était les Duncan Keith, c'était ces joueurs-là qui disaient, les gars, dans des matchs comme ceci, voici comment on se comporte.
Mais tu sais, Louis, tu fais référence à Duncan Keith, puis tu fais référence au noyau dur des Blackhawks, qui a quand même remporté 3 Coupes Stanley sur une période de 6 ans.
Ouais.
Et souviens-toi, quand ils ont gagné la dernière en 2015, on a commencé à parler de dynastie parce que dans une Ligue nationale à 30 équipes à l'époque, à 31 maintenant, puis à 32 dans 2 ans, ben de gagner 3 Coupes Stanley en 6 ans, c'était exceptionnel. Et les Blackhawks l'ont fait. Tu peux pas gagner la Coupe parce que ton père a de l'argent. Tu peux pas gagner la Coupe en allant l'acheter au Walmart. Mais quand tu la gagnes 3 fois en 6 ans, c'est plus qu'impressionnant.
Ça l'est extrêmement. Puis moi, ce que je trouve encore pas plus impressionnant que ce que tu viens de dire, parce que c'est une équipe originale, c'est une équipe qui a fait les choses de la bonne façon. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus actuellement, c'est pas les vétérans que je t'ai mentionnés, c'est de voir que cette équipe-là, qui, il y a 2 mois quand tu m'en parlais à l'avant-match, tu me posais des questions sur les Blackhawks, puis je te disais, écoute, je sais pas ce qu'ils vont faire. Keith Seabrook, honnêtement, tu n'es pas capable de les échanger. Si tu les rachètes, tu as ta masse salariale pendant une éternité. Ouais. Ils ont un énorme problème. Et je dis pas qu'ils sont sortis du bois, mais c'est drôle, tu fais une couple de transactions. Soudainement, tu as un gars comme DeBrincat que tu as repêché, qui est une superstar en devenir. On parle pas du fait que ce gars-là, il a 38 buts dans la Ligue nationale, parce qu'on parle de tous les autres. Mais ce gars-là, il est sur le point de marquer 40 buts à sa 2e saison dans la Ligue nationale. Tu es allé chercher Strome, tu es allé chercher des joueurs, tu as une bonne brigade défensive. En tout cas, tu as des jeunes qui s'en viennent, qui selon moi, font en sorte que, sais-tu quoi, ils ont peut-être fait exactement ce que les Bruins de Boston ont fait, c'est-à-dire quelques transactions, peut-être qu'ils vont avoir encore un petit peu de changement, des petites modifications à changer, mais sais-tu quoi, s'ils font pas les séries cette année, es-tu prêt à me gager 5 piastres présentement qui sont pas là l'année prochaine? Moi, je pense que Jeremy Colleton, c'est peut-être il est venu insuffler peut-être quelque chose de qui était intéressant pour les joueurs.
Entraîneur nouveau genre.
On adorait Joel Quenneville, le nouvel entraîneur de 32 ans, mais il est venu amener une nouvelle énergie, il a fait tout de suite croire et embarquer ses vétérans, il achète ce que lui vend. Et là, soudainement, moi, je regarde les Blackhawks, je me dis, ben, crime. Cette équipe-là, s'ils rentrent en série, peut-être qu'ils gagnent une ronde, ils ont des chances. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant à quel point on a pu se retourner rapidement.
Ouais.
Et c'est pour ça que je me dis, puis j'ai eu le même réflexe avec mes collègues l'autre jour, écoute, pourquoi que le Canadien, on fait souvent des transactions, on va chercher des Nate Thompson et des joueurs comme ça, mais tu peux pas me dire que ça se fait pas des transactions. T'es capable d'aller chercher un Dylan Strome, et sans te donner mère et monde non plus.
Donner Mitch Maltz.
Exactement. Alors, pour moi, je me dis, crime, c'est possible de faire des transactions pendant la saison qui sont bonnes, des transactions de hockey qui sont bonnes pour aujourd'hui, qui sont bonnes pour demain, puis dans plusieurs années à venir aussi.
Oui.
Les Bruins sont la preuve, les Blackhawks sont la preuve.
OK. Là, je voyais les trios à l'entraînement ce matin en prévision du match de demain. Puis, il y a de quoi qui m'agace là-dessus, Louis, puis je veux t'en parler ce soir, parce que je trouve, de toute façon, qu'on focus beaucoup trop sur le 4e trio à Montréal, parce que le premier trio est un véritable 2e trio, le 2e est un 3e, puis le 3e, on n'est pas certain. Fait, si tout le monde est assis dans la bonne chaise, peut-être qu'on parlera un peu moins du 4e. Fin de la parenthèse. Paul Byron, qui s'entraînait ce matin sur le 4e trio, ce gars-là a trop de skills offensifs, excusez-moi l'expression skills, a trop de qualités offensives. Ce gars-là est rapide, ce gars-là est dédié à la cause du Canadien. C'est un game changer. En désavantage numérique, n'importe quand, il peut te marquer un but qui va te ramener dans le match. Pourquoi ce gars-là se retrouve au 18 mars sur le 4e trio?
Parce que tu essaies de diversifier l'attaque, c'est ce qu'on va expliquer, parce que t'as trop de gars qui ne produisent pas. T'essaies de trouver une étincelle, une chimie, parce qu'elle est inexistante. Depuis un certain temps, depuis à peu près 3 semaines, le Canadien ne gagne à peu près pas. Et non seulement ça, ils sont pas capables de marquer. C'est généralisé, c'est plus seulement l'avantage numérique, Dan, c'est maintenant aussi 5 contre 5,
ouais,
c'est
raison.
Partout. Alors j'ai de la... Écoute, moi, tu sais, de commencer à clairement critiquer, de dire, regarde le coach, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vois plus un coach qui n'a pas beaucoup de... Tu sais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main, là. Alors, tu as beau essayer, tu peux dire, OK, Paul Byron, 4e trio, qu'est-ce qu'il fait là? Mais en même temps, Paul Byron, sur une bonne équipe, il est 3e ou 4e trio. Je veux dire, si je te dis Lightning de Tampa Bay, Paul Byron, il n'est pas ses 3 premiers trios, je m'excuse, là.
Je comprends, mais à Montréal, il pourrait avoir un rôle plus important, Louis.
Je suis d'accord, mais il y en a un important. Je veux dire, à leurs yeux, c'est pas comme si soudainement ce joueur-là n'est pas important, parce qu'il l'est. Il est extrêmement apprécié par l'équipe d'entraîneurs. Il fait partie du noyau de joueurs là, excessivement important, autour de qui on veut bâtir, autour de qui on veut vraiment le groupe de leaders de l'équipe, évidemment, qui comprend un gars comme Shea Weber. Ben, tu retrouves aussi un joueur comme Paul Byron. Alors, il est important, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, on dirait qu'on le voit moins percer la défensive adverse. On l'a vu un peu moins fougueux. Alors peut-être qu'on juge que si on le place là, on lui donne une chance de jouer contre des adversaires un peu moins coriaces. Et lui, avec sa vitesse, devrait être capable d'en profiter. Le problème à ça, c'est que tu joues beaucoup moins de minutes, alors tu as moins de chance. Des fois, tu vas sauter ton tour et tout ça. Je comprends parfaitement la logique, mais pour moi, ultimement, tu tu parles du quatrième trio, ben le problème, c'est-tu le quatrième trio? Non. Le problème aussi, le sujet de discussion, c'est Kotkaniemi, qui n'a pas joué beaucoup en troisième. Écoute, excuse-moi, mais Kotkaniemi, on ne devrait pas trop avoir à parler de ce gars-là présentement.
Non,
mais si on en parle, ça expose quoi? Ça dit que tu n'as pas assez de bons gars.
Manque de profondeur.
Exactement. Et ton premier trio est peut-être un troisième trio ailleurs. Alors, si c'est ça ta réalité,
ouais,
ben, ça donne quoi? Ça donne que quand ça compte vraiment les games, quand c'est très difficile, quand ça commence à chauffer, tu as une équipe qui malheureusement a de la difficulté à répondre et à aligner des victoires.
Mais tu sais, Louis, à l'époque où tu étais plus jeune, puis tu allais au dépanneur avec ton grand-père, puis acheter des gratteux, tu avais la case cadeau boni.
Des Joe Louis.
OK? Des Joe Louis aussi, OK. Mais le gratteux, il y a toujours une case cadeau boni. OK? Tu grattes ça, puis c'est un bonus à ton gratteux. Mais Kotkaniemi, cette année chez le Canadien, là, c'est le cadeau boni. Souviens-toi, au repêchage, il repêche Kotkaniemi, puis là, ils nous disent hey, « Soyez patient, il va être bon dans 3-4 ans. » OK, parfait. Il arrive au camp, il impressionne tout le monde. Tu vois que le jeune a des bonnes qualités, il est capable de jouer au hockey. Il tombe tout le temps quand il arrive dans le coin de la patinoire, mais tu dis au mois de novembre, il tombera plus. Là, finalement, il garde, il fait bien. Moi, j'accepte pas qu'à la mi-mars, parce qu'il a été laissé de côté à San Jose dans le voyage dans l'Ouest, j'accepte pas que le Canadien qui s'enligne pour manquer les séries, il y a une partielle d'explication ou de raison qui reviennent sur le dos de Kotkaniemi. Il ne mérite aucunement d'être ciblé pour les déboires du Canadien.
Et je suis à 1000% d'accord avec toi. À 2000% d'accord avec toi. Tu l'as expliqué parfaitement, mieux que j'aurais pu le faire. Écoute, moi, de toute façon, je pensais que c'était pas une bonne idée de toute façon de le garder. Est-ce qu'il m'a surpris? Oui. Est-ce qu'il a prouvé qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale? Oui. Est-ce qu'il a prouvé qu'il va être un excellent joueur? Absolument. Et là, c'est dommage parce que là, on se concentre sur le fait que l'équipe ne va pas bien. Et là, on cherche les bébites. Et une des bébites, on se dit, ben, c'est Kotkaniemi. Il produit pas. Soudainement, son temps d'utilisation est coupé et tout ça. Et sais-tu quoi? Si le monde regarde ça, je m'excuse, il regarde pas à bonne place. C'est pas sur un Kotkaniemi que tu devrais commencer à mettre le blâme. Tu devrais pas avoir à le critiquer, mais aucunement, parce que ce gars-là, il a devancé toutes les attentes. Non seulement ça, by the way, un des plus jeunes joueurs, le plus jeune joueur dans la Ligue nationale de hockey. Alors, t'as parfaitement raison là-dessus. Concentrons-nous sur les vétérans. Concentrons-nous sur les joueurs qui ont de l'expérience. Concentrons-nous sur les joueurs qu'on dit qui sont encore jeunes, mais à un moment donné, ils vont finir par apprendre. Mais vraiment, ça fait assez longtemps qu'ils sont dans la Ligue nationale de hockey, qui devraient avoir un plus grand impact actuellement. C'est là où le bas blesse, c'est là où tu gagnes, où tu perds des matchs. C'est pas raison que Kotkaniemi. Puis il y a un peu une incongruité dans le message. Si tu dis en début d'année, on le garde parce qu'il est meilleur que les autres, puis à la fin de l'année, tu le fais plus jouer, oui, le hockey a évolué, oui, tout le monde s'améliore, oui, les autres équipes, le hockey n'est pas pareil qu'au mois d'octobre et de novembre. Parfaitement d'accord. Mais maintenant, c'est parce que tu t'attendais pas à être là où tu es.
Non.
T'étais pas sûr que t'allais faire les séries. Alors tu disais, regardez le Nanan, là.
Ouais.
Votre troisième choix au total qu'on va dire qui va être extraordinaire, puis il y a eu un bon camp d'entraînement, puis il n'a fait que progresser entre le camp des recrues, le camp principal, le début de saison. Regardez-le comme il est extraordinaire. Ça démontre que toi, tu n'étais pas sûr que t'allais faire les séries. Sinon, si tu disais, on avait besoin de quelqu'un de plus fort que lui, parce que sincèrement, c'est prévisible de voir qu'un jeune de 18 ans, à un moment donné, va frapper un mur. Il le frappe à la fin de la saison actuellement, lui. Pour moi, ça démontre à quel point il y a une certaine inconstance dans le message ou dans ce qu'on voyait, ce qu'on attendait. Je comprends le Canadien. J'aurais probablement pris la même décision qu'eux autres dans les circonstances. Sincèrement, Marc Bergevin, Claude Julien ne savait pas à quoi s'attendre de cette année.
Oui.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu une saison exceptionnelle. Le problème, c'est qu'au lieu, et on devrait regarder ça de façon très positive cette année malgré tout, mais là, on voit ce qui arrive en fin de saison et on pointe et on cherche les bébites.
Puis l'attente des partisans que leur club préféré fasse les séries, elle est juste humaine. On peut pas en vouloir aux partisans
d'être déçus
avec la saison que cette équipe-là a connue. Avant de te laisser, je veux t'entendre sur Jonathan Drouin, qui est la nouvelle cible des partisans et de tous ceux qui tentent d'expliquer pourquoi le Canadien gagne pas. Un seul point à ses 16 derniers matchs. On a vu de jeunes joueurs talentueux quitter prématurément Montréal dans les dernières années. Je pense à Mike Ribeiro, je pense à Galchenyuk, je pense à Pacioretty. Est-ce que Drouin est le prochain?
Pas demain, là. Il va pas, selon moi, tu l'échanges pas au repêchage, tu l'échanges pas cet été. Mais c'est du quoi? J'ai un pourcentage dans ma réponse que je me dis, Il n'y a aucun doute que Marc Bergevin est déçu. Il n'y a aucun doute que Jeff Molson est déçu. Il n'y a aucun doute que Claude Julien, que l'organisation, elle est extrêmement déçue de voir que, tu sais, tout à l'heure, quand je faisais référence à les jeunes joueurs qui, à un moment donné, vont finir par apprendre et tout ça, évidemment, je vise et je parle de Jonathan Drouin. Maintenant, je ne veux pas dire que les insuccès récents, c'est strictement l'affaire de Jonathan Drouin. Mais à un moment donné, quand tu regardes les joueurs, puis toi, t'es fort, tu te rappelles des noms et tout ça. Mais quand tu regardes l'année de repêchage de Jonathan Drouin, c'est quoi? C'est 2013?
Oui.
Il y a eu des Barkov, il y a eu des Jones.
Ouais.
Voilà. Et il y a eu des très, très bons joueurs. Seth Jones aussi, qui est sorti quatrième au total. C'est tout devenu, ces joueurs-là, des joueurs, je dirais, d'impact, des joueurs qui ont eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Seth Jones, on parle de lui comme un gars qui va pas un jour, c'est une question de temps avant qu'il remporte un trophée Norris. Il est le défenseur le plus fiable, le plus important des Blue Jackets, oui, de Columbus. Quand est-ce que ça va arriver pour Jonathan Drouin? La question, c'est, je le sais pas, je me pose la question si ça va arriver à Jonathan Drouin.
Exact.
Tu sais, c'est vraiment décevant, ça. Alors oui, c'est pas juste l'affaire d'un joueur. Il a démontré vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses, Jonathan. Mais à un moment donné, je pense que l'organisation commence à se poser la question. Mais là où je pense que c'est impossible de l'échanger présentement, c'est que t'as donné quand même Sergachev,
oui,
qui oublie les statistiques à Tampa, ce gars-là. Je parlais avec Julien Brisebois il y a pas longtemps.
Il joue
me
bien.
Disait,
oui,
il est nettement,
oui,
il est 10 fois meilleur qu'il l'était l'année passée.
Oui.
Alors, si tu veux l'échanger,
c'est
mieux d'aller chercher
Drouin
quelque chose,
oui,
de retour, très, très, vraiment quelque chose de vraiment solide en retour. Alors, je m'imagine que ça, on va être encore patient avec lui, mais on a hâte à m'amener que, regarde, t'as tout le potentiel du monde. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour que tu aies le déclic de... Puis c'est comme ça dans n'importe quoi. Le monde qui nous écoute, là, c'est la chose la plus difficile dans peu importe le domaine d'avoir une constance et une continuité.
Ce soir, les surprenants Coyotes de l'Arizona sur vos ondes contre la meilleure équipe de la Ligue, le Lightning de Tampa Bay. Un gros merci, Louis.
Merci, Dan. À lundi prochain.
Bonne soirée à toi. Louis-Jean, animateur à TVA Sports. Maintenant, pour aller à la pause, on va écouter Conor McGregor, le roi du UFC, qui a été invité par les Bruins samedi dans le cadre de la Saint-Patrick. McGregor est un Irlandais. La Saint-Patrick à Boston, c'est évidemment très souligné. Il est allé aux Bruins. Il n'a pas juste fait la mise au jeu protocolaire. Écoutons.
Please welcome all the way from Dublin, Ireland, the original champ, the notorious Conor McGregor!
Well, to Boston Bruins! Yes! When I say Boston, you say strong! Boston!
Strong!
Boston!
Strong!
Boston!
Strong!
Yes! Remember, nothing heroic gets done without support, without unity. We must back each other. We must support each other. Before you go out, look left, look right. Know that these people that are with you are your brothers. These are the people you need to fight for. Fight until victory. Boys, I wish you the best. Let's go, Boston Bruins.
Get these puck when I drop it. Who's the captain? Who's the captain?
Get this puck when I drop it. This is your puck. This is your arena. All of you. Every. Take these people out. Take no prisoners. Let's go, Boston Bruins. Let's go, Boston Bruins. Yes.
À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
L'événement Volkswagen pour tous, c'est le moment
perfect
pour vous procurer une voiture
fantastique
à un excellent
prix.
Comme le Tiguan, disponible avec la
Wunderbar
traction intégrale 4Motion, idéal pour rester en
contrôle.
Profitez de 0$ d'acompte, 0$ de dépôt de sécurité et 0$ comme premier paiement à la location d'un modèle 2019 sélectionné. L'offre se termine le 1er avril. Visitez vw.ca pour les détails. Avec ça, vous serez fin prêt pour
l'autobahn.
Voyons, qui parle?
Volkswagen.
Des maladies peuvent survenir à la suite de commotions cérébrales, dont le Parkinson, l'Alzheimer et la SLA. Pour les prévenir, la Fondation du CHU de Québec lance un projet rassembleur qui supporte une recherche innovante sur les commotions cérébrales. François Drolet, Simon Gagné, Guillaume Rioux, Charles Fortier, Michel Laplante et Louis Garneau se joignent à la Fondation pour ce projet. Supportez une de ses vedettes sportives et courez la chance de gagner un moment privilégié en sa compagnie et 5 000 $ offerts par Voyage Arabais. Info sur projetsportif.org.
Venez célébrer les 10 ans du Salon international des vins et spiritueux de Québec, présenté par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada, les 26 et 27 avril au Centre des congrès de Québec. Pour un temps limité, économisez jusqu'à 25 % sur les billets en prévente au salondesvinsdequebec.com.
c'est pas les jours avant l'été qu'il faut compter, c'est ceux qui restent avant la vente 5 jours, mon choix de Saint-Nicolas-Nissan. On ajoute jusqu'à 1 000 $ de rabais aux offres en vigueur. Par exemple, le Rogue, déjà réduit de 1 500 $, baisse d'un autre 750 $. Aussi, exclusif au groupe Paquette dans la région, faites l'essai du très branché Kicks et Saint-Nicolas-Nissan vous donne une chance de gagner une location de 24 mois. Achetez-le et c'est 10 chances qu'on vous donne. Dès mardi chez Saint-Nicolas-Nissan. Autoroute 20, sortie route Lagueux.
Vous êtes presbyte ou vous avez des cataractes? Voyez vos options grâce à la chirurgie par lentille intraoculaire offerte à l'Institut privé de chirurgie. Offrez-vous la liberté sans lunettes. Prochaine soirée d'information gratuite le 27 mars. Institutprivédechirurgie.com.
Messieurs, vous devez passer une résonance magnétique de la prostate? IRM Québec est la seule clinique à vous offrir la solution de dépistage du cancer le plus répandu chez les hommes. Rendez-vous rapide dans un milieu calme et sans stress. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com.
De vendredi à dimanche, venez voir l'élite mondiale du ski de fond sur les plaines d'Abraham pour les finales de la Coop Coupe du Monde FIS. Venez encourager Alex Hervé qui performera à la maison pour une dernière fois. Une présentation de Québécois et Le Gruyère AOP Switzerland, collaboration FM 93.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophélia. Côté mer, L'Ophélia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophélia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor rappelant un yacht de luxe, embarqué à bord de L'Ophélia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant à L'Ophélia sur Grande Allée.
Rêvez, vous dites? C'est l'événement à faire rêver chez Honda de Giraud. Le CR-V 2019 en location 24 mois à partir de 0,99%. Honda de Giraud, toujours ouvert le samedi.
FM 93, promo, concours. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
En collaboration avec la boutique Le Coureur Nordique, je vais vous donner la chance d'apprécier, tout comme moi, la course à pied au printemps. Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur notre page Facebook. Vous pourriez gagner un des deux cours de course à pied au Coureur Nordique ainsi qu'une carte cadeau de 150 $ pour vous équiper.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire, sous toutes ses facettes.
Et voilà, on est de retour dans l'avant-match. Merci d'être à l'écoute. Votre présence est très appréciée depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Mon prochain invité est recruteur pour les Remparts de Québec. Les Remparts ont terminé leur saison en fin de semaine sous la barre des 500. C'est toujours le fun de lui parler. C'est Marc Fortier qui est au téléphone. Salut Marc!
Salut mon Dan!
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Quand on est recruteur pour une équipe d'hockey junior puis que les Chevaliers de Lévis gagnent 41 de leurs 42 matchs, ça veut-tu dire qu'on va les voir à chaque fois qu'ils jouent?
Ben, je vais dire que c'est peut-être l'équipe que j'ai le plus vue cette année. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont très intéressants pour le prochain repêchage. Et avec une saison exceptionnelle comme ça, ça attire l'attention des recruteurs, c'est sûr et certain.
Qu'est-ce que vous regardez pour un jeune midget? Au-delà de sa performance sur la patinoire, au-delà des plus et moins, au-delà des lancers bloqués ou des buts et des passes, est-ce que vous jasez régulièrement avec les entraîneurs midget pour voir comment le jeune se comporte à la séance d'entraînement ou comment il va à l'école? Ou
Absolument. Absolument. Aujourd'hui, Dan, quand on fait... on appelle ça un peu du due diligence, là, c'est quand on veut en savoir un peu plus que les aspects athlétiques d'un joueur ou bien sur ses habiletés sur la glace. On va souvent demander justement aux entraîneurs, parler avec eux autres, savoir comment il se comporte justement dans le vestiaire, comment il est hors glace, comment il est dans la vie de tous les jours. Ses études, oui, c'est important. On va essayer d'aller faire un petit peu un background de sa famille. Parce que quand on a des joueurs, souvent, il y a des joueurs qui sont plus petits hein, à cet âge-là. Les joueurs sont en pleine croissance. Ils ont 15 ans, 16 ans, il y a certains 14 ans. Alors, quand on va voir l'historique de la famille, ben on peut peut-être voir si le joueur va continuer à grandir et grossir ou bien si par rapport aux parents, ben on risque qu'il reste peut-être dans la même stature qu'il est là. Alors, ce sont tous des éléments qui sont importants de vérifier.
Marc, je veux pas que tu me donnes aucun secret de l'organisation. Je veux pas que tu me donnes de nom à ma prochaine question, mais j'ai une question qui me passe par la tête sur la progression d'un jeune joueur. Un jeune joueur qui, au mois d'octobre, tu vas le voir, il t'impressionne, tu dis « Colin, lui, je vais le recommander à mes patrons, c'est un bon joueur, mettons, un ailier gauche. » Tu penses que dans la Ligue d'hockey Jean-Major du Québec, ça pourrait devenir un ailier gauche de deuxième trio, mettons. Puis finalement, tu retournes le voir au mois de janvier, février, mars, puis il touche peu à puck, il touche peu à personne, puis ça arrive-tu ça qu'en cours de route, tu changes complètement l'évaluation d'un joueur?
Absolument. Absolument, Dan. Avant les fêtes, là, c'est sûr qu'on essaie de voir le plus possible, mettons, les équipes, au moins des voir deux, trois fois chaque, parce que jusqu'aux fêtes, c'est un temps pour allumer des lumières. Hein? On arrive, on dit, oups, ce joueur-là, on va le vérifier. Puis on a une rencontre aussi, nous autres, téléphoniques, là, souvent avec notre groupe de recruteurs. On est 7-8.
Okay.
Puis là, on va se faire une première liste. On va s'allumer chacun des lumières parce que c'est sûr et certain que moi, je vais peut-être voir moins souvent Amos, je vais voir moins souvent Gatineau, les équipes de Montréal parce qu'ils sont pas sur mon territoire. Alors, ces dépisteurs-là, eux autres, qui vont couvrir ces équipes-là un peu plus souvent, qu'ils ont vu peut-être 10 fois au lieu de 3-4 fois de mon côté, ben c'est sûr et certain que ça va me permettre de peut-être, quand que je vais les revoir, de focusser plus sur ces joueurs-là qu'eux autres ont sorti sur leur liste. Et c'est la même chose pour ces dépisteurs-là de Montréal qui vont avoir des rapports de nous. Nous, on va voir plus souvent SSF, on va voir souvent Lévis, Jonquière, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières. Alors, on s'échange ces informations-là, puis vraiment, après les fêtes, c'est là vraiment qu'on voit les joueurs qui vont progresser ou les joueurs qui vont régresser, et souvent, ça va complètement changer notre liste, oui.
OK. T'es-tu capable de voir en certains joueurs qui ont moins de temps de glace un potentiel plus grand que son coach dans le midget 3 a vu? Je précise ma question. Un gars qui joue pas beaucoup avec Trois-Rivières ou avec Magog, peu importe l'équipe, il joue pas beaucoup, mais toi, tu te dis, Colin, il me semble que s'il jouait plus souvent, il serait bon. Tu vas lui donner une meilleure note sur ton rapport.
Oui. Oui, parce que nous, là, on n'évalue pas la production offensive, on n'évalue pas son temps de glace, on évalue ses aptitudes. Puis souvent, mais même si un joueur joue moins souvent, joue avec un rôle moins important, un rôle plus défensif, un rôle sur un quatrième trio, il y a moins de temps de glace, bien, on peut quand même voir, quand il est sur la glace, individuellement, on peut focusser sur les aptitudes qu'il a, puis justement, bien, on va coller ça des fois des long shots, ou ce qu'on va dire, hey, ce gars-là, là, il passe un peu sous le radar parce que il a pas une bonne utilisation. Et puis, moi, je suis convaincu que si on le prenait à notre tel round, ce petit gars-là, il a le potentiel de se développer. Alors, on fait souvent ça dans des long shots, ou ce qu'on va dire. Okay. Ça vaudrait la peine peut-être là, d'investir ce petit gars-là parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose de spécial.
C'était une année de transition pour les Remparts cette année. L'équipe a terminé en bas de 500. Si on regarde juste le classement, c'est un peu décevant, mais Patrick s'est tourné vers l'avenir. Pour un recruteur comme toi, que l'équipe ait encore plus de choix de repêchage, c'est une bonne nouvelle?
Ah oui, absolument. Puis pour nous, justement, avec tous les changements que Patrick a fait, on a quand même regarni notre banque de choix. Là, on va avoir 8 choix dans les 4 premières rondes comme cela. Alors, c'est quand même important. On a 1 choix de 1re ronde, 2 choix de 3re ronde, 1 choix de 3re ronde et 3 choix de 4re ronde. Alors, c'est pas besoin de te dire, Dan, que le repêchage va être primordial pour nous cette année si on veut faire un bon cycle, si on veut vraiment partir du bon côté. Il faudra pas se tromper. Alors, c'est le fun pour nous de voir justement qu'on a des choix comme ça. Ça va peut-être être une autre histoire quand on va arriver à la journée du repêchage où peut-être que Pat va en échanger une couple de ces choix-là.
Oh oui, je comprends.
Mais comme c'est là, la tangente a l'air de se diriger vers on va garder le plus possible nos choix, on va essayer d'améliorer notre équipe. Alors, ça va être des choix qui vont être très, très, très importants là, lors du prochain repêchage.
Dans la Ligue nationale de hockey, Marc, il y a plus de place pour les petits joueurs. Est-ce que c'est la même chose dans le hockey junior?
Oui. Oui, Dan, parce que nous, là, t'as des joueurs qui sont des petits joueurs, OK, qui sont de bons petits joueurs, mais nous, là, on regarde pas pour s'il y a le potentiel d'aller dans la Ligue nationale. Nous, on regarde le potentiel pour faire un bon joueur junior. Alors, c'est justement, ça va peut-être être plus facile pour nous de dire ce joueur-là, il est pas gros, mais il peut faire quand même un très, très bon junior sans aller dans la Ligue nationale. Alors, ça devient intéressant, Dan, parce que un petit joueur comme ça, là, ça peut peut-être vouloir dire qu'il va jouer 5 ans dans le junior majeur.
Oui.
Au lieu qu'un joueur, admettons, qui est déjà étiqueté Ligue nationale, et il joue à 16 ans junior, il joue à 17 ans, il se fait repêcher, puis là, tu risques peut-être de le perdre à 18 ou à 19 ans. Alors qu'un plus petit joueur talentueux, qui lui, tu dis, ça va être difficile pour lui d'aller dans la Ligue nationale à un jeune âge, bien là, tu dis, crime, je peux peut-être l'avoir 16, 17, 18, 19, 20, qui peut donner 5 bonnes saisons junior. Alors, ça devient des joueurs qui sont très intéressants.
OK. Pendant que j'étais au téléphone, Marc, je veux te parler absolument du Canadien. Tu as joué dans la Ligue nationale de hockey il y a quelques années. Le Canadien est en chute libre actuellement. Et la semaine dernière, Andrew Shaw a fait une déclaration quand même assez cinglante. Il a dit, dans notre vestiaire, il y a des passagers. Est-ce que c'est bon qu'Andrew Shaw sorte ça ou les gars qui se sentent passagers vont être encore plus fâchés après lui?
Ben, c'est un peu... Moi, je suis bien d'accord avec lui s'il dit ça, mais il faut qu'il le dise dans le vestiaire aussi, là.
Okay.
Parce que si tu le fais juste pour le dire pour les médias, ton message, c'est bien mieux de le passer à l'intérieur de ton vestiaire, de dire « Hey, les boys, là ». Puis là, il peut pointer du doigt le gars. Tu sais, tout le monde assume que Drouin doit être dans le message que Shaw envoyait, parce que c'est pas mal la target, c'est ainsi à Montréal. Mais il faut qu'il soit capable aussi dans le vestiaire de se lever puis de dire « Hey, Jonathan, comme c'est là, t'es pas dans le bateau, puis le bateau va couler si tu réagis pas. » J'espère qu'il le fait dans la chambre, qu'il se lève et qu'il dit en pleine face. Au-delà de le dire devant les médias, parce que moi, je pense pas que c'est la meilleure façon de le dire dans les médias si tu le fais pas dans la chambre.
Marc, le Canadien, demain, débute une semaine importante de 4 matchs. C'est des matchs accessibles. Philadelphie, les Islanders, Buffalo et la Caroline. Si le Canadien en gagne 3 sur 4, il va revenir dans la course aux séries et pourrait même participer aux séries. Selon toi, qui a joué dans la Ligue nationale, à ce stade-ci de la saison, qu'est-ce que ça prend pour relancer le Canadien?
Ben, la ligne est mince, Dan, puis les Canadiens, ils sont pas loin, là. Tu sais, eux autres, là, sont à 2 points et 4 points, mettons, de la 7 et de la 8. T'as une bonne semaine, comme la semaine qui s'en vient, où ils vont jouer quand même 4 matchs dans un court laps de temps. Si tu vas en chercher 3 sur 4, t'as ramassé 6 points, puis tu vas jouer contre des compétiteurs directs, dont la Caroline dimanche. T'sais, tu peux replacer la barque, là. C'est juste que si tu arrives à ce temps-ci de l'année avec peut-être 10 matchs qui leur restent, tu fais une mauvaise semaine cette semaine, tu ramasses 2 points sur 8. Là, après ça, il te reste 6 matchs, puis tu vas peut-être être en retard de 4 et 6 points au lieu de 2 et 4 points. Là, ça peut devenir tragique. Alors, c'est sûr et certain que t'as la combinaison mathématique où que si le Canadien perd un match puis que son adversaire direct en gagne un, c'est là que ces 10 derniers matchs deviennent des matchs de 4 points où ce que tu peux pas te permettre d'avoir une mauvaise semaine, là. Alors c'est crucial cette semaine. C'est pas désespéré, Dan, parce que c'est atteignable,
oui,
cette semaine. Là. C'est des équipes qui peuvent gagner. C'est pas comme s'ils pognent Tampa Bay puis qu'ils pognent Saint-Nosé. Puis, oups, là, tu vas dire, c'est une mission difficile, mais là, c'est prenable. Mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas l'échapper.
Absolument, tu as bien raison. Un gros merci de nous avoir parlé, Marc. Très apprécié.
Ça fait toujours plaisir, Dan.
Bonne soirée. Marc Fortier est toujours disponible pour nous parler. Toujours agréable de lui parler également. Il faisait référence au match accessible et je suis d'accord avec lui. La fin de la saison va être beaucoup plus difficile pour le Canadien, par contre. Columbus, Winnipeg, Washington, Tampa et Toronto, les 5 derniers matchs du Canadien, ça va être pas mal plus tough. Maintenant, on va écouter Patrick Roy. Vous avez entendu parler peut-être en regardant du tennis puis du golf pendant l'envoi du volleyball au PEPS en fin de semaine. Ouais, ça a l'air que Patrick, Dan, il a fait une crise. Vous l'avez manqué? La voici.
Je dois t'avouer là, que je suis vraiment content de la performance de notre équipe parce qu'on a un calendrier de marde. Un calendrier de marde. Jouer à Bécomo un mercredi soir. Après ça, rentrer à 4 heures. On était supposé rentrer à 4 heures du matin. Puis là, on joue vendredi, samedi. C'est un calendrier de marde. Puis nos joueurs ont été capables de faire une bonne job puis de trouver une manière de rester dans ce match-là. Sincèrement, je peux pas leur demander plus. Nos gars, ils sont donnés corps et âme pour nos partisans. Ils ont essayé de donner le meilleur spectacle. Mais c'est un calendrier de marde.
jusqu'à 19h, encore plus de sport avec l'avant-match. L'avant-match au FM 93.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée.
Durant les offres Mon Choix chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan, obtenez 1 500 $ de rabais sur le Rogue 2019, maintenant offert à seulement 69 $ par semaine en location sur 24 mois, avec un compte de 2 995 $. Ce printemps, Mon Choix, c'est Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan.
Vous cherchez un cellulaire beau, bon, pas cher? Pensez à PC en vrac. iPhone 6 à seulement $159.95 avec verre trempé et étui inclus. À Saint-Nicolas, Québec et Charlebourg, PC en vrac, vos cellulaires à prix imbattable.
Que diriez-vous de terminer votre saison de hockey sur la patinoire du Centre Vidéotron? En collaboration avec les Remparts, le 14 avril, on se paye le trip de hockey de l'année. Une partie entre nous autres sur la glace des grands. Inscrivez-vous maintenant sur fm93.com. Et vous pourriez gagner une place pour vous et un ami. Vous aurez un cadeau de FM 93 et Budweiser s'occupe des rafraîchissements. Inscrivez-vous maintenant sur fm93.com et terminez votre saison sur la patinoire du Centre Vidéotron. Collaboration des Remparts et du FM 93.
Guérir du surendettement, ça a changé ma vie. Juste d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien.
Découvrez l'effet Raymond Chabot. Prenez rendez-vous en ligne ou faites le 1-855-R-CHABOT. Raymond Chabot, conseiller en redressement financier. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Nous sommes heureux de vous annoncer en primeur que la nouvelle Mazda 3 2019 est enfin arrivée chez vos concessionnaires Mazda. Pour la toute première fois de son histoire, la Mazda 3 sera offerte avec la traction intégrale iActive, une perle rare dans ce segment de véhicule. La Mazda 3 vous offre plus de confiance sur la route, quelles que soient les conditions. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour faire l'essai de la toute nouvelle Mazda 3 2019. Détails sur Mazda.ca.
De vendredi à dimanche, venez voir l'élite mondiale du ski de fond sur les plaines d'Abraham pour les finales de la Coop Coupe du Monde FIS. Venez encourager Alex Hervé qui performera à la maison pour une dernière fois. Une présentation de Québecor et Le Gruyère AOP Switzerland, collaboration FM 93.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Leader des technologies de l'information au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Devicom, a acquis Perseid Brigade Numérique pour environ $1 million. À ses 50 spécialistes des stratégies web et de l'hébergement Internet, Devicom ajoute la vingtaine d'experts de Perseid, une agence web offrant des services d'audit numérique et de marketing.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
J'ai le deal. Chez JD Mitsubishi de Bois-Châtel, jusqu'à la fin du mois. La garantie prolongée transférable est sans frais et ça vaut jusqu'à 2 600 $. Ça protège votre Mitsubishi d'un pare-choc à l'autre pendant 10 ans ou 160 000 km avec assistance routière sans frais. JD, ça veut dire j'ai le deal. Et venez chercher le vôtre chez JD Mitsubishi de Bois-Châtel à une minute des chutes.
J'ai le deal.
Vous avez entre 45 et 65 ans? Cineos Health est à la recherche d'hommes et de femmes en bonne santé et non-fumeurs pour une étude clinique à Montréal et Québec. Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Cineos Health. Recevez jusqu'à 2 700 $ pour votre participation. Inscrivez-vous à monétudecineossanté.com, monétudecineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. 1-866-262-7427. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50 %.
50 % chez Spar Infinima, Mega Fitness Gym, 1-800 God Junk et chez Extermination Plus.
50 % à la Scala Trattoria et au Strom Spa Nordique. Obtenez deux expériences thermales incluant l'allocation de peignoirs et de casiers. 50 $ taxes incluses pour deux personnes.
En vedette cette semaine, Ludovica, le monde miniature à Place Fleur-de-Lys, le plus grand parc de type Legoland en Amérique. Obtenez deux admissions à moitié prix.
Maboutiqueradio.ca.
Vous êtes âgé de 50 ans ou plus? Vous êtes presbyte ou avez des cataractes? La chirurgie par lentille intraoculaire, offerte à l'Institut privé de chirurgie, est la solution. Inscrivez-vous à notre prochaine soirée d'information gratuite le 27 mars. Institutprivédechirurgie.com.
Il y a 20 ans, le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure a ouvert ses portes au pays, c'était Kia Québec. Pour vous dire merci, Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair rachètent votre bail et offrent 1 000 $ en bonus célébration sur la Soul. Et la caméra de recul est incluse sur la Rio.
Le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h. FM 93.
Évidemment, la vedette du week-end, c'est Bianca Andreescu. On va s'y arrêter à son impressionnante victoire dans les prochaines minutes avec Valérie Tétrault, qui est analyste pour TVA Sports. On va écouter à l'instant le coach, Sylvain Bruneau, qui a parlé à sa protégée pendant la finale. Écoutons.
It becomes a little bit here, mind over body.
Like my feet are burning.
Yeah.
I'm going to change my socks or change my arthrosis. Like, I can barely move out there.
Yeah, you know how strong you are. You know how strong you are mentally and physically. And now it's true. You need to push. You're right. You're going to need to push through it. You're going to need to stay strong under adversity. But that's okay. That's what you want. You welcome competition.
I want this so bad.
Okay, that's good. Perfect. I like to hear that. So go out there and keep competing every single ball, every single point.
Quel travail de psychologie qu'a fait Sylvain Bruneau hier dans le match de sa protégée Bianca Andreescu en finale contre Angélique Kerber. On a entendu ça à TVA Sports. Évidemment, vous traduire rapidement, c'est pas compliqué. Là. La jeune fille est fatiguée, elle a mal partout et le coach, il lance seulement des phrases positives pour lui remonter le moral puis il lui demande de se battre pour chacun des points qu'elle va disputer avec Angélique Kerber. Et c'est exactement ce qui est arrivé, tellement que la jeune de 18 ans, originaire de Mississauga, a gagné le tournoi. Pour essayer de comprendre l'ampleur de cette victoire pour une jeune fille du Canada qui est âgée de seulement 18 ans, on va jaser avec l'analyste, l'excellente analyste, faudrait-je dire, à TVA Sports pour le tennis, Valérie Tétrault, qu'on joint à l'instant au téléphone. Bonsoir, Valérie.
Salut, Jean.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui. D'abord, je veux te féliciter pour le travail accompli au cours de la dernière semaine. Tu vas me dire, ben là, Dan, c'était pas la première fois que tu m'entendais à la télé. Non, mais il y a plus de monde, je pense, cette semaine qui s'est mis à TVA Sports pour le tennis parce qu'on avait l'ascension d'une jeune Canadienne. Et j'ai adoré la pertinence de tes commentaires, particulièrement quand tu nous as expliqué le temps d'arrêt médical. Tu savais exactement c'était quoi. Puis nous, dans le salon, ben pas juste dans mon salon à moi, dans le salon des auditeurs, il y a personne qui savait ce qui se passait. Là.
Ben c'est très gentil. Merci pour les bons mots. Mais je dois dire que ça a été vraiment une semaine mouvementée, mais une semaine le fun d'écrire un match comme celui-là. Je pouvais pas demander mieux. Avec une Canadienne, c'est sûr, mais en plus pour la qualité du match qu'on a eu.
Oui, les gens qui ont manqué le tennis hier, sachez qu'il y avait des échanges. C'était pas simplement un service qui est retourné dans le filet ou en dehors des lignes. Il y avait des échanges longs, puis ça a ajouté à la qualité du spectacle.
Oui, puis ça nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Hein. Et puis, j'ai l'impression que ça va devenir un peu la marque de commerce peut-être de Bianca Andreescu parce que ben, on a vu que c'est une jeune fille qui a beaucoup de cœur. Il a fallu qu'elle ait puisé dans ses ressources dans ce match-là. Elle avait fait exactement la même chose aussi dans son match de demi-finale contre Elina Svitolina. Et je tiens à dire justement que ben, dans ces deux dernières rencontres, si elle a battu des filles qui ont beaucoup plus d'expérience qu'elle, qui sont déjà classées dans le top 10 mondial, ben ce sont pas ces filles-là qui lui ont donné le match, mais c'est vraiment elle qui est allée chercher ces victoires-là. Alors, des victoires clairement méritées.
Absolument. Dis-moi, les gens qui suivent un peu moins le tennis comprennent peut-être pas l'ampleur d'Indian Wells. On connaît les quatre tournois majeurs. Est-ce qu'Indian Wells, c'est tout de suite après les quatre majeurs?
C'est tout de suite après, même que c'est le tournoi qu'on surnomme comme le cinquième grand chelem. Parce okay. que, bon, c'est pas le seul de sa catégorie. Si on parle uniquement du circuit féminin, en fait, il y en a quatre qui se retrouvent dans cette catégorie, dont Indian Wells. Et c'est vraiment la catégorie de tournoi qui vient tout de suite après les grands chelems. C'est même un peu plus relevé là, pour ce qui est des points et des bourses. Que la Coupe Rogers. Alors, c'est énorme ce qu'elle a accompli. En fait, ben, c'est le titre le plus important remporté par un joueur canadien ou une joueuse canadienne. Puis le fait de le faire, évidemment, à 18 ans seulement, ça nous démontre tout son potentiel.
OK, je veux revenir sur les deux matchs auxquels tu faisais référence tantôt, la demi-finale et la finale. On a vu Andreescu qui semblait, selon ce que tu nous disais à la télé, avoir des crampes, être fatigué, être blessé de partout. Dans quelle mesure elle va devoir ralentir le tempo de ses tournois dans les prochaines semaines, même si elle a seulement 18 ans, parce qu'on a comme peur pour la suite si elle est toujours fatiguée puis toujours blessée comme ça, là?
Ben, c'est vrai qu'il va falloir quand même peut-être s'arrêter et prendre certaines choses en considération parce que son début de saison, c'est un peu inattendu. Hein. Donc, si elle avait planifié jouer certains tournois, là, les plans vont probablement changer. Normalement, quand on fait un calendrier de tournois, ben, on essaie de baser ça sur le nombre de tournois qu'on veut disputer dans une année. Sauf que là, ce qui est arrivé avec Bianca Andreescu, c'est que, premièrement, à cause de son classement en début de saison, il a fallu parfois qu'elle passe par les qualifications, donc qu'elle se tape un peu plus de matchs. Et là, elle a joué énormément de tennis, beaucoup plus que n'importe quelle autre fille sur le circuit de la WTA. Ça fiche le démontre, là, 28 victoires, 3 défaites seulement. Oui. Alors que la deuxième derrière elle, avec le plus grand nombre de victoires, cherche encore à atteindre les 20 victoires. Alors, c'est une grande marge. Et je dirais que c'est une fille qui, ben, quand même, a dû jouer avec quelques blessures, surtout chez les juniors. Donc, il y a quand même une certaine fragilité de ce côté-là. Et je me souviens particulièrement d'une blessure qui avait été causée justement par du surentraînement. Et là, c'est ça qu'on va vouloir éviter. Et encore une fois, ben, faut garder en tête qu'elle a seulement 18 ans, donc elle n'est pas complètement développée encore. Elle apprend encore aussi à gérer les choses avec son corps, à savoir où sont ses limites, jusqu'où elle peut pousser. Et ça, c'est un apprentissage qu'elle va faire probablement pour le reste de la saison, parce que faut pas se leurrer, là, entre les tournois Challenger qu'elle jouait l'an dernier, et là, le niveau de jeu où elle doit jouer, l'intensité qu'il y a à chaque match pour aller chercher des victoires contre des filles de l'élite mondiale, ben, c'est pas la même game.
Valérie, dis-moi, il y a 6 mois, personne ne la connaissait. Aujourd'hui, elle est 24e au monde. Est-ce que je comprends que c'était une fille prometteuse, mais qui est peut-être 2 ans avant son temps?
Ben, c'est vrai que depuis qu'elle est toute jeune, qu'on sait qu'elle a un potentiel énorme, il y a des choses innées dans son jeu, que ce soit dans sa vision de jeu, que ce soit ses qualités athlétiques aussi, qui nous faisaient dire que ben elle était vouée à un brillant avenir. Maintenant, surtout en raison de ses résultats des dernières années, il n'y a personne qui s'attendait nécessairement à ce que ça arrive aussi rapidement. Là. En octobre dernier, elle était au-delà de la 250e place mondiale. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler d'une ascension plus fulgurante que celle qu'elle a faite depuis les derniers mois. Maintenant, sa vie va changer. Hein. Elle a déjà changé sa vie. On l'a un peu vécu à travers Eugénie Bouchard il y a quelques années, mais là, elle retient l'attention partout sur la planète tennis, pas seulement ici au Canada, mais elle est vraiment l'histoire de l'heure. On le voit pour ce qui est des demandes médiatiques à l'international. On le voit aussi chez la WTA, donc le circuit qui veut s'emparer, si je peux m'exprimer ainsi, de l'image de Bianca Andreescu pour faire la promotion aussi du tennis féminin.
Et son nombre d'abonnés sur Instagram a presque doublé depuis vendredi.
Ouais, voilà, donc il va falloir qu'elle apprenne à gérer tout ça. Je suis pas sûre que là, présentement, elle assimile exactement tout ce qui est en train de se passer, puis c'est peut-être mieux comme ça. Mais il va falloir qu'elle s'assure de garder les bonnes priorités. Je suis pas inquiète. Et puis la bonne chose pour elle, je dirais, c'est que elle est bien entourée déjà. Il y a une équipe qui est solide en place et qui s'assurera justement qu'elle puisse juste continuer de se concentrer sur les bonnes choses.
OK. En 20 secondes, parce que le temps file, je dois te laisser. Est-ce que maintenant la crainte pour le public, ça va être les attentes qu'on aura envers Bianca, étant donné qu'elle a gagné Indian Wells, on va penser qu'aussitôt qu'elle va jouer un tournoi, elle va gagner?
Ben, ça, c'est possible. Hein? Puis il va quand même falloir qu'on soit patient avec elle, parce que même si elle a beaucoup de potentiel, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle remporte tous les tournois. Il n'y a absolument rien d'impossible. Mais ce que j'aimerais qu'on évite surtout, c'est la comparaison facile justement avec Eugénie Bouchard. Si jamais, à un moment donné, elle a une baisse de régime, il ne faudra pas se dire que c'était un feu de paille et qu'on revienne à nos mauvaises habitudes.
Je comprends. Un gros merci, Valérie. Bonne soirée à toi.
Merci, vous autres aussi.
Bye-bye. Valérie Tétreau, analyste pour TVA Sports. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
C'est un calendrier de marde.
C'est sincèrement décevant, ce qui arrive avec le Canadien. Pas parce qu'on s'attendait à ce qu'ils remportent le titre de leur division. Parce qu'ils ont assez bien joué pour faire les séries, puis là, ils s'enlignent pour les manquer. Il reste 10 matchs aux Canadiens. Dommage parce que ils ont créé des attentes aux partisans, puis les partisans vont être déçus de ne pas voir les Canadiens en série. À moins que ça change.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins.